il faudra se faire. À partir de quel moment ça sera enregistré?
Oui, on a l'habitude de commencer sans cérémonie pour qu'il n'y ait pas de vrai
démarrage.
Oui, il y aura quelque chose de perdu tout à fait au début.
Et puis de toute façon, vous pouvez supprimer après.
Oui, c'est ça, c'est pas facile de supprimer. C'est plus facile de l'enregistrer. Oui, c'est ça, de l'écouter. Eh bien, la première chose à faire, si vous permettez, que je vous demande à chacun de vous présenter, comme cela on reconnaîtrait après les différentes voix. Alors, je vais vous demander simplement de dire qui vous êtes. Si vous préférez ne pas dire votre nom, ça n'a aucune importance, mais dire ce que vous enseignez, depuis combien de temps vous êtes ici, si vous êtes orléanais ou orléanaise, et puis si vous avez d'autres postes que celui que vous occupez maintenant. Et puis je m'en tiendrai un tout petit peu avec chacun de vous séparément, et puis nous allons commencer une espèce de discussion, une conversation sur des sujets que j'espère vous intéresseront.
Oui.
Alors, commencez avec vous, madame, s'il vous plaît.
Oui, merci, si vous voulez. Alors, madame, j'enseigne au CES Saint-Marc seulement depuis un an l'éducation musicale. Je suis orléanaise. Qu'est-ce que je vous dis? J'ai deux enfants.
Oui. Oui. Vous avez enseigné ailleurs auparavant?
Oui, mais pas l'éducation musicale.
Ah oui?
Non, c'est la première année.
Ah oui? Vous êtes recyclé ou reformé?
Voilà, c'est ça.
Ah oui? Qu'est-ce que vous enseignez avant?
Ce qu'il faut que je le dise. De toute ma vie, j'enseignais le français dans des services américains, c'est-à-dire aux militaires américains.
Mm-hmm. Et comment est-ce que vous avez fait pour être formé à l'enseignement musical?
C'est-à-dire que j'avais une formation musicale avant.
Mm-hmm. Ah oui. Alors, merci beaucoup, madame. Et ensuite, à vous, madame.
Eliane, professeure d'anglais au CES depuis 3 ans. J'enseigne l'anglais déjà depuis pas mal d'années. Je suis mariée, j'ai 2 enfants.
Vous êtes orléanaise?
Non, je ne suis pas orléanaise de naissance. Je suis orléanaise depuis 8 ans. Oui. Ma fille avait 2 ans lorsque nous sommes installés à Orléans pour des raisons de convenance personnelle. Nous habitions auparavant Paris.
Vous êtes parisienne?
Non, pas de naissance non plus. Mm-hmm. J'enseigne l'anglais donc depuis ça fait maintenant quelques 12-15 ans. J'ai commencé aussi par enseigner d'autres matières, entre autres le français et l'histoire. Mais ma spécialité a toujours été l'anglais, puisque j'avais fait au départ une licence d'anglais d'enseignement d'anglais. Je me plais beaucoup au CESMA, parce que c'est un petit établissement, très bien situé, très aéré, et où il y a une très bonne entente entre tous les collègues. Et je crois que c'est très appréciable. Et je désirais y rester d'ailleurs, parce que je me plais beaucoup dans cet établissement qui est très différent des grands établissements que nous avons dans la ville, qui ont leurs avantages peut-être, mais qui ont, à mon avis, beaucoup d'inconvénients d'un point de vue humain. Et pour les enfants, cela est un point très important.
Merci, madame. Ensuite, à vous, mademoiselle.
Moi, Marie-Noëlle, je suis actuellement étudiante à la faculté d'Orléans. Je passe ma licence pour enseigner. Enfin, j'espère avoir un poste à la rentrée prochaine et pour enseigner l'anglais. Je suis au CES Saint-Marc en tant que surveillante et j'ai pu aussi avoir l'occasion de contacter divers professeurs. Enfin, ma vie, je peux parler de ma vie, je suis célibataire.
Est-ce que vous pourriez peut-être expliquer ce que c'est qu'une surveillante?
Une surveillante.
Pas en Angleterre comme vous le savez sans.
Une surveillante, on essaie depuis plusieurs années de faire évoluer, je crois, le rôle de la surveillante. C'est-à-dire que, enfin, quand moi-même j'étais élève et même interne, la surveillante était un petit peu un policier. Qu'on craignait, c'était la discipline permanente, le silence complet, et C'était un petit peu un régime militaire, enfin sans exagérer, sans critiquer non plus le régime militaire, mais... Tandis que maintenant, on essaie d'être beaucoup plus proche des élèves, de les aider dans leur travail. Enfin, personnellement, j'ai été très dépaysée parce qu'avant, j'étais surveillante dans des lycées où j'étais en contact avec des élèves de terminale, tandis qu'ici, ce sont des élèves de la 6e à la 3e, donc des enfants de, je sais pas, de 11 ans à 17 ans au moins. Alors, je me suis aperçue que c'était très difficile de s'adapter, et eux-mêmes de s'adapter à nous, parce qu'ils ont l'habitude de nous craindre, et, enfin, de nous craindre, ça ne veut pas dire qu'ils nous craignent, mais enfin, souvent, ils sont assez, sont toujours sur la défensive, c'est-à-dire qu'ils ne nous aiment pas beaucoup, à vrai dire, je ne trouve pas. À quelques exceptions près, à moins que je n'ai pas su me faire comprendre, mais ils ne comprennent pas qu'on leur demande de se taire et de faire moins de bruit. Pour eux, enfin, je ne sais pas, je ne sais pas, enfin, moi, j'ai pas pu y arriver, enfin, je ne crois pas, mais... Enfin, on essaie d'être beaucoup plus proche des enfants, de les aider dans leurs devoirs et de ne plus avoir ce rôle de policier qu'on avait un petit peu avant, par habitude. Enfin, je sais pas. Je suis assez... Oui, ils sont... Oui, bah, certains petits, je ne peux pas dire, certaines classes, comme ces sixièmes, sont très...
Et je crois que vous jouez
très agréables, mais...
un rôle d'animateur, de temps en temps, vous essayez de leur dire qu'il faut s'intéresser, occuper son temps, l'habitude. Évidemment, là, vous n'avez pas la possibilité de jouer un véritable rôle d'animateur, parce que vous n'avez pas... de moyens, vous n'avez pas d'autres locaux que des salles de classe. Alors, les enfants sont toujours dans l'atmosphère, si vous voulez, de la classe. Il n'y a rien qui leur permette de se détendre. Mais je crois que mademoiselle est une de ces jeunes surveillantes qui a un rôle d'éducatrice extrêmement important et que les petits, les tout petits aiment bien justement parce qu'ils sont contents de voir un visage jeune. Oh, et ils vous aiment beaucoup et je ne sais pas ce que vous espériez. Évidemment, vous n'avez pas eu suffisamment la possibilité de jouer un rôle d'animatrice. Puis on vous apporte très peu de temps aussi, des heures entre ces établissements sont à 8 et vous n'avez pas évidemment la possibilité de connaître très longtemps, puisque vous n'avez qu'un demi-service, mais je crois que vous êtes en bonne voie. En bonne voie pour justement avoir un rôle d'éducatrice intéressant.
Enfin, j'espère qu'à la rentrée prochaine, si j'enseigne, je saurai mieux aborder les élèves. Je crois que c'est une expérience cette année avec des élèves du secondaire. Voilà, c'est tout.
Alors, merci beaucoup, mademoiselle. Et monsieur.
Monsieur. Cycle pratique. Je suis ici depuis une dizaine d'années, dont 6 ans dans le cycle pratique. Je suis marié à un enfant. Je suis Hubert Richon, je suis Sancerrois, exactement, de la région de Sancerre. Le pays du bon vin, j'en profite pour faire de la réclame. Et les crottins de Chavignol, si les Anglais nous entendent, ils seront heureux.
Oui, c'est vrai, je suis allée 3 fois à Sancerre. La première fois que j'ai découvert par accident la petite ville, et puis 2 fois, je suis allée spécialement. Spécialement aussi pour acheter du vin.
Oh. Ah, très bien.
Vous voyez.
Vous avez goûté au petit fromage de chèvre?
Oui. Aussi, qui vont très bien ensemble. Mm-hmm.
Il y a une quantité de recherches à l'heure actuelle dans Sancerrois sur la vieille histoire de la France.
Ah oui?
Alors, on est en train de chercher une vieille ville, peut-être datant des Romains, Château-Gordon, qui a complètement disparu. Et il est très difficile d'expliquer cette disparition. On l'explique par les crues de la Loire, mais ce n'est pas certain. Mm-hmm. On n'a plus aucune trace de cette huile sur la Loire, qui était certainement un grand foyer, disons, de marché, et peut-être même un lieu de passage, qui se situerait entre, vraisemblablement entre Nevers et Sancerre.
Oui, c'est très intéressant, ça.
Alors, il y aurait certainement des tombeaux et des trésors. Beaucoup de gens sont en train de s'inquiéter de cette chose.
Oui,
oui.
Et les
fromages. Oui. Il y a une pierre historique.
Il semble que deux d'entre vous, vous avez parlé de votre rôle vis-à-vis des enfants. C'est-à-dire, vous, madame, vous aimez être assez près des enfants dans un petit établissement. Et vous, mademoiselle, vous avez parlé de votre rôle en tant que quelqu'un qui doit aider, se trouver près des enfants. Est-ce que vous trouvez tous que les petits établissements sont meilleurs que les grands?
Incontestablement, à mon avis, incontestablement. Car nous finissons par connaître les enfants presque individuellement lorsqu'on est déjà depuis un certain nombre d'années dans le même établissement. Parce qu'il y a les enfants que l'on a, ceux que l'on a eus, et il y en a très peu que l'on n'a pas eus et que l'on aura sûrement. Puisque nous changeons de classe à peu près tous les ans. Parfois, nous les suivons. Alors, nous les connaissons encore mieux. Et je crois que c'est très, très important pour un enfant de se retrouver pendant le premier cycle des études secondaires avec des visages connus et de savoir que même s'il a des faiblesses parfois dans un domaine ou dans un autre, il a des professeurs qui le connaissent suffisamment pour le comprendre et parfois pour l'excuser. Je crois que c'est un élément sécurisant pour l'enfant et qui est très important.
Qu'est-ce que vous pensez qu'on doit surtout apprendre aux enfants à l'école?
Je penserais à une forme d'esprit. C'est peut-être un petit peu difficile, mais personnellement, c'est ce que je recherche le plus. Et peut-être pour ça que je suis pessimiste, mais... Ou à moins que j'ai des critères spéciaux pour certains esprits, mais je trouve qu'il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas suffisamment de... s'attachent pas suffisamment à leur travail, ou alors manque de personnalité. Il ne faut pas généraliser, mais... Puis leur esprit, évidemment, ils sont jeunes, mais j'en vois en troisième... qui ont un esprit qui n'est pas du tout formé et qui ont une mentalité qui est encore très difficile et non équilibrée à 17 ans. Alors je sais pas, moi j'essaie de les aider, j'essaie d'être le plus proche, mais enfin, c'est certainement plus difficile que pour un professeur qui est dans une classe, mais... Je sais pas, ça, certains, j'ai pu me rendre compte qu'ils évoluaient très bien, et d'autres qui ont fait des gros progrès en fonction du début de l'année. Mais d'autres, malheureusement, ils stagnent, et j'espère pour eux qu'ils trouveront une ouverture, mais leur esprit est très difficile à former.
Je crois qu'il est d'autant plus difficile d'agir sur les enfants que nous avons des classes trop nombreuses. Dans la mesure où nous les voyons en petits groupes, on a l'impression que notre action est efficace, tandis que forcément dans une classe de 32 élèves ou 33 ou 35, nous ne pouvons pas nous attacher, c'est matériellement impossible de s'attacher au cas de chaque enfant, d'autant plus que nous avons un programme à assurer et à faire, et que même la partie humaine que nous pouvons donner à notre enseignement ne demeure que relative par rapport au fait qu'on doit leur apprendre quelque chose. Et je crois que c'est la question d'effectif qui est très très importante et qui est l'obstacle au développement des rapports élèves-professeurs.
Quel serait le nombre idéal dans un groupe, pour vous, madame, par exemple?
Il y a une quinzaine, moi, en éducation musicale, pour les petites classes. Les classes sont partagées en deux, c'est-à-dire des groupes de 15. Alors ça, c'est vraiment l'idéal. Je ne sais pas si c'est parfait, mais c'est très intéressant.
Oui, une quinzaine.
Parce que là, vraiment, on peut vraiment s'occuper presque individuellement de chaque enfant.
Et vous, monsieur, pour la pratique?
Dans l'enseignement pratique, je pense qu'il n'est pas possible de dépasser un groupe de 12. Et lorsque les maîtres deviennent à leur tour, disons, élèves dans les CET ou dans des centres où on les prépare un nouveau métier, il y a 2 moniteurs pour 12 maîtres. Et ce n'est pas trop.
Est-ce que vous vous sentez gêné par les programmes que vous avez à accomplir ou à suivre?
Non, non. Plus maintenant, non. Puisque maintenant, de plus en plus, on nous donne une certaine liberté.
Ah oui,
ah, oui. Ah, oui. En particulier, je pense à l'enseignement de l'anglais. En France, on essaie de développer les méthodes audiovisuelles. Et on nous dit que ce n'est pas la quantité de leçons qui sera faite, que l'on jugera la valeur du professeur ou même la valeur des élèves, c'est au résultat. Soit même, on nous laisse juger d'envisager notre enseignement de la façon la plus efficace, telle que nous. Ce sont les dernières directives que nous avons reçues. Nous ne sommes pas encore tous certains que les inspecteurs généraux sont d'accord. Mais c'est ce qui a été dit dans les dernières réunions sur l'enseignement audiovisuel.
Ça a changé donc depuis quelques années?
Oui, depuis 2 ans, on essaie de faire quelque chose.
Oui, depuis 2 ans?
Depuis 2 ans seulement, 2-3 ans maximum. Mais disons que cela commence à se répandre, surtout depuis 2 ans. Mm-hmm. Où on estime qu'il faut qu'un enfant du premier cycle et même du second sache parler l'anglais, on ne demande pas qu'il fasse son livre d'anglais de la première à la 30e leçon. Ça n'a aucune valeur. Alors qu'on essaie de les entraîner à l'oral, d'utiliser le magnétophone le plus possible, de leur faire l'audiovisuel, les faire parler sur des gravures, oui.
Par contre, ce qu'on nous dit, ce que nous apprenons d'après nos manuels,
oui.
En Angleterre, c'est qu'en France, pour créer un système où chaque enfant est l'égal de tous les autres, il faut créer un système où chaque enfant fasse les mêmes choses, c'est-à-dire égalité, cela veut dire identité.
Oui.
Et qu'en France, on peut être sûr que de Montpellier à Amiens, par exemple, les enfants feront les mêmes programmes, oui, selon le même rythme, partout. Est-ce que c'est vrai?
En gros, c'est comme ça.
Ce fut comme ça.
C'est-à-dire qu'il y a l'apport personnel de chaque,
oui,
professeur,
oui,
mais il y a quand même une ligne de conduite,
oui,
je pense.
Jusqu'à présent, il y avait les programmes des classes.
Oui, il y avait des programmes.
Des programmes,
je crois que de plus en plus,
oui,
on laisse dans toutes les disciplines,
oui,
beaucoup de liberté pour le programme. Le choix
des textes
d'un certain programme, cela, en particulier dans les disciplines scientifiques. Et je pense justement que vous demandiez tout à l'heure ce qu'on demandait à l'enseignement, quel était le but de l'enseignement. Je crois que depuis longtemps, car le professeur qui a demandé l'enseignement, du droit d'enseignement, mais depuis très longtemps, on cherche plutôt à former l'esprit, à donner aux enfants des habitudes de travail, à les apprendre plutôt, à former leur esprit pour qu'ils apprennent à travailler plus que de leur faire entasser, si vous voulez, des connaissances. On cherche davantage, je le répète, à leur donner des habitudes de travail, à leur donner la possibilité de se cultiver.
Oui, c'est ça. Moi, je vois en musique, en fait, mon but personnel, je ne sais pas si c'est le bon, c'est de les ouvrir. Les ouvrir à tout, enfin, à la musique en particulier, mais à tout.
Et c'est ce qui est en rapport avec ce qui nous est demandé. Et les programmes sont un peu, de plus en plus, indicatifs. Mais on demande en particulier dans les différentes disciplines, on souhaite que les professeurs personnalisent leur enseignement, ils travaillent autour de thèmes variés. Il y a, si vous voulez, un certain programme, mais je répète, qui est plutôt indicatif.
Comment donc est-ce qu'on s'assure que les CES sont semblables? C'est-à-dire, comment est-ce qu'on
Ah, oui, il y a des programmes communs.
Oui, quand même, oui. Des programmes communs. De la sixième à la troisième, il y a des programmes communs, tous les enfants. Et en gros, disons, les enfants ont vu certaines parties du programme dans à peu près toutes les matières, oui.
Est-ce que c'est la même chose dans la classe pratique ?
Eh bien, la classe pratique, il y a 3 ans, il y avait un examen en fin d'année pour entrer en CET. Cet examen a été supprimé. Et à l'heure actuelle, ça pose une foule de problèmes, parce qu'on a l'impression qu'on donne priorité à certains élèves qui ne méritent pas toujours, ce ne sont pas toujours les meilleurs qui rentrent en CET. Alors c'est tout un problème, bien sûr.
Oui. Quelle serait la solution ? Ou une solution ?
Moi, je suis pour le retour aux examens, comme je pense une foule d'enseignants. Évidemment, un examen, c'est pénible, c'est dur, c'est tout ce que l'on veut, mais enfin... Disons que c'est pour le moins juste.
Oui.
Maintenant, j'ai discuté avec des personnes qui prétendent qu'il faudrait faire plus de CET, et là je vais très loin, bien sûr. Et d'autres qui vous diront que c'est parfaitement inutile, puisque le nombre de gens sortant de CET avec les diplômes qui s'appellent des CAP sont suffisants à l'heure actuelle, donc c'est inutile d'en former plus. C'est bien sûr un problème. Est-ce qu'on travaille pour un nombre réduit dont on a besoin, ou est-ce qu'il faut travailler pour tout le monde ? C'est-à-dire, en quelque sorte, perdre de l'argent pour rien. Et je pense qu'à l'heure actuelle, on a choisi volontairement ce petit nombre réduit d'élèves.
Car c'est un problème qui se rattache à la main-d'œuvre et aux débouchés, aux divers débouchés économiques, en réalité.
Mais est-ce que vous trouvez qu'on devrait former les enfants pour les débouchés qui existent, dans la mesure où on peut...
On peut le prévoir. Jusqu'à présent, il semble que les prévisions étaient plutôt fausses.
Oui. Mettons que les prévisions puissent être correctes. Est-ce que vous trouvez que serait une bonne chose de former les enfants pour les débouchés ?
Je ne crois pas, parce que si on forme les enfants pour les débouchés, on sait pertinemment à l'heure actuelle que, par exemple, pour le personnel féminin, eh bien, on a vite fait de former, par exemple, quelqu'un qui sait servir d'une machine à coudre ou autre chose. Donc pour le personnel féminin, les CET sont en nombre relativement réduit. On a essayé d'y pallier en créant des CEP, on en a créé très peu. Les conseils de parents d'élèves se sont étonnés dans certains cas et ont posé cette question, mais comment expliquer qu'on n'accepte pas tous nos élèves ? Ce n'est pas possible, puisqu'on n'en a pas besoin, on ne va pas créer des CEP, puisque le but de la CEP, c'est de créer là où vraiment on a besoin d'élèves et de les former en 3 ans. Donc la seule solution, c'est de créer des CET.
Non, moi je crois néanmoins qu'il est bon de créer des CET dans la mesure où il y a des débouchés, ça c'est certain. Car un enfant, après tout, c'est son avenir qui le prépare en classe. Bien entendu, il ne faudrait pas que cette préparation à l'avenir stoppe toutes les possibilités d'un enfant. Uniquement le point de vue pratique arrête ses autres possibilités. Je pense que néanmoins, on doit essayer aux éléments de réserver pour les éléments qui se manifestent les plus brillants, car il y a toujours des enfants qui se manifestent les plus brillants, d'autres possibilités d'accéder à des postes peut-être plus importants non pas tellement d'un point de vue hiérarchie sociale, mais plus importants d'un point de vue recherche, d'un point de vue scientifique, médical, car j'estime que de toute façon, tous les pays ont besoin de savants, ont besoin de chercheurs, ont besoin d'une élite. Et le gros défaut, à mon avis, de la conception d'éducation moderne, c'est qu'on semble étouffer les élites. On veut faire un tronc commun pour tous les enfants, je trouve que c'est très bien d'un point de vue démocratique, mais il ne faut pas que ce tronc commun finisse par étouffer les élites, par le fait qu'on veuille mettre tout le monde au même niveau, que l'on ne fasse pas une place réelle à ceux qui en ont les aptitudes intellectuelles. Ça, je trouve que c'est regrettable.
Oui, d'ailleurs, c'est le motif de la baisse du niveau général de l'enseignement en France. On veut... Oh, moi, je trouve que si.
Oui.
Très nettement, le niveau a baissé. Je prétends pas que moi, en sixième, je faisais des merveilles, mais quand je vois certains résultats, j'avoue que je suis très frappée parce que... Je sais pas, c'est comme une plante qu'on pousse à grandir alors qu'elle n'en est pas capable. Le gamin qui sortira de l'école primaire, on le poussera à aller en sixième systématiquement et ce sera un enfant qui sera trop lent, qui retardera éventuellement sa classe ou qui empêchera, oui, comme disait Madame, les élèves au niveau normal ou éventuellement à un niveau
supérieur,
un peu plus, oui, supérieur de progresser normalement.
Puisque c'est le nombre qui l'emporte et lorsque...
Oui, et une uniformité qui se fait et qui est assez malsaine.
Moi, je trouve.
Mais en fait, quand même, on fait des groupes dans les classes. Il y a les 1, les 2...
Oui, mais
les...
c'est quand même pas, ce n'est pas général.
Ce n'est pas général. En principe, on ne devrait pas les faire. Nous les faisons pour le besoin,
oui, mais c'est mieux,
de l'organisation, mais en principe, on ne devrait même pas les faire.
Tout le monde n'en a pas la possibilité. Je crois que c'est par la petitesse, oui, de l'établissement,
oui. Oui, oui,
la dimension d'établissement qui
moi, je crois que c'est regrettable quand on voit que dans certaines classes, il y a un ou deux éléments, parce qu'il y en a rarement plus, qui dominent vraiment les autres, que ces éléments-là ne soient pas groupés avec d'autres dans les divers établissements pour en faire des classes excellentes, où le niveau soit très poussé, car il est évident que certains enfants comprennent dans les 10 minutes qui suivent. Alors ces enfants s'ennuient, perdent leur temps, et très souvent, ça devient des enfants indisciplinés ou ayant du dégoût de l'étude, parce qu'ils s'ennuient.
Oui.
Nous avons un exemple, un petit tuteur en mathématiques. En langue, moi j'ai deux ou trois exemples dans mes classes aussi, 5e 1 en particulier. Ce sont des enfants qui auraient pu suivre un niveau beaucoup plus élevé et plus rapide. Alors je crois que c'est quand même dommage. C'est dommage pour ces enfants.
Mais on essaie de pallier à cet inconvénient en faisant à l'intérieur des classes, dans certaines disciplines seulement, en les divisant. 12 heures, qu'on appelle les travaux dirigés, en deux groupes de niveau, un faible et un fort, mais ça ne suffit pas, ça ne fait pas une
très, c'est très
différence. Et encore, ça n'est pas toujours réalisable par-dessus de la manque, du manque par-dessus de la pénurie des locaux. Car cela fait beaucoup plus de classes qui soient nécessaires à une heure donnée.
Moi, je crois que c'est la chose dont on s'apercevra dans 20 ans, qu'en somme, les enfants qui avaient des possibilités certaines tout de même au départ, peut-être n'arriveront pas comme ils auraient dû arriver par l'ancienne méthode qui avait de gros défauts, c'est certain, de gros défauts, je les reconnais, mais où tout de même les élites arrivaient et avaient une possibilité d'arriver plus vite que les autres et d'arriver... disons, d'une façon confortable, avec des années d'avance même sur les autres. Et cela, c'était très important.
Vous allez dire quelque chose, monsieur?
Je n'avais pas l'air d'accord.
Eh bien, je ne sais pas, mais enfin, je vais discuter, disons, avec un inspecteur qui m'avait dit que c'était souvent une erreur de faire partir trop vite. Et que dans toute sa carrière d'inspecteur, il avait connu deux élèves qui avaient eu intérêt, disons, à griller des étapes.
Oui, je crois qu'il y en a très peu, de toute façon. Il ne faut pas faire
d'erreur.
Dans
une carrière d'inspecteur,
c'est possible, oui.
C'est un inspecteur qui est en ce moment à Orléans.
Oui, c'est possible.
Il me dit tous les autres, quand on a voulu griller des étapes, même s'ils avaient l'impression d'aller très vite,
oui,
ils s'arrêtaient, ils étaient à bout de souffle. Il y a un âge pour tout faire.
Il y a un âge pour tout faire, oui. Mais je vous dis, il y en a quand même, il y en a bien. Je ne sais pas, c'est difficile d'avancer un chiffre, mais je suis persuadée que sur la masse d'enfants, il y en a bien 5% quand même. 5%.
Largement, et je crois que ça a comme conséquence assez grave, justement, de faire perdre le goût d'effort.
Ah oui, des enfants qui étaient très enthousiastes pour les études, ensuite finissent par ne plus.
Par perdre le goût d'effort.
Oui, parce qu'un enfant qui est doué est exigeant, et je m'aperçois justement. Visiblement, il est insatisfait.
Ah oui, parce que le niveau.
Il est très perturbé en ce moment, sans doute.
C'est un enfant qui avait démarré en sixième d'une façon vraiment très brillante, avec, disons, presque 3 années au-dessus des autres, d'un point de vue maturité mathématique, quoi, d'après ses professeurs. En jouant en anglais, il était très bon aussi. Mais alors, il est arrivé peu à peu, il est en quatrième, donc après 3 années de CES, il devient paresseux, il ne veut plus rien faire, il s'ennuie. On a vraiment l'impression qu'il s'ennuie en classe. Alors, je crois que c'est dommage. Cet enfant aurait suivi des cours... d'un niveau plus élevé, au contraire, il aurait eu l'amour propre de encore mieux faire, et je pense que ça aurait été très bon pour lui.
Un enfant doué est très exigeant.
Très exigeant, c'est normal.
Sur ce qu'on lui enseigne. Oui. Je ne serais pas forcément une élite, mais enfin,
non,
du moins
enfin,
un niveau légèrement
un niveau,
supérieur,
supérieur à la moyenne.
Qui serait pas pour,
Comment donc donner des chances égales aux moins doués?
En s'en occupant, plus particulièrement, oui. Moi, je crois qu'on peut leur donner des chances égales en ayant des classes moins nombreuses et en s'en occupant, parce que certains enfants, en effet, se révèlent qu'en quatrième ou troisième. Certains ont une maturité qui vient un peu plus tard que d'autres. Ça se voit tous les ans. Mais que les enfants qui, manifestement, dès les plus jeunes, les plus petites classes, ont un niveau nettement au-dessus des autres, je crois qu'il faudrait les mettre avec des éléments du même niveau. Oui. Du même niveau. Je pense que ce serait une sélection qui devrait se faire et qui pourrait se faire peut-être avec beaucoup de délicatesse, c'est-à-dire ne pas dire à ses enfants, étant donné qu'un enfant n'a pas la notion de sa valeur, ne pas leur dire qu'on les groupe pour telle ou telle raison, voir les parents, bien entendu, en parler aux parents, et même pour que les parents n'en tirent pas une vanité excessive, en disant, nous allons le mettre à l'essai dans tel groupe, on pense qu'il peut. Et voir si cet enfant, même s'il ne semble pas pouvoir ou s'essouffler, ben, qu'à cela ne tienne, on le remettra dans un niveau correspondant à son âge et à la moyenne de ses camarades. Moi, je crois que ce serait une bonne chose, parce que nous allons voir d'ici 10-20 ans, je suis sûre que les élites se seront uniformisées, on aura beaucoup d'enfants moyens, mais on n'aura pas d'élite dans chaque matière. Oui, là, il faut être bon en français, il faut être moyen en français, moyen en maths, moyen en anglais, pour passer dans une classe supérieure. Mais un élève qui sera spécialement bon en maths, ou spécialement bon en français, s'il a une autre matière faible, on hésitera à le faire doubler ou on le fera doubler. On stoppe un enfant particulièrement doué, là. Je crois que c'est dommage.
Qu'est-ce qui fait qu'un enfant réussit ou ne réussit pas, pensez-vous?
Il y a beaucoup de choses. Oui. Il y a son intelligence. Oui. Et puis il y a un milieu familial, ça, ce qui est certain. L'enfant dont on s'occupe. Hein,
je ne suis pas du tout votre avis. Ah non, absolument pas.
Moi, j'ai vraiment l'impression que les enfants dont on s'occupe travaillent mieux. Ils apprennent à travailler, ils savent travailler. On leur apprend à travailler.
Je crois que ça leur rend service, mais je ne pense pas que c'est ce qui détermine.
Oh, non, pas complètement, mais à l'origine, en sixième, je pense que ça les aide beaucoup. Un enfant en sixième qui est livré à lui tout seul, c'est beaucoup plus difficile qu'un enfant qui tous les soirs, on demande « Est-ce que tu as pris tes leçons ? Récite-moi les. » Ça lui donne l'habitude de travailler. Après, il peut partir seul. J'en suis persuadée.
Oui, c'est certain que lorsque la famille collabore...
Je crois que c'est une bonne chose, mais je ne pense pas que ce soit une règle absolue. Nous avons des élèves de milieux très simples, dont les parents, je pense au petit Philippe, 5e 1. Le papa est, je crois, chauffeur de poids lourd, donc très souvent absent de la maison. Il a des frères et sœurs, la maman est très occupée. Et d'ailleurs, dans sa fiche, on même travaille seul, toujours. C'est un enfant qui ne demande jamais à être aidé, mais c'est un enfant très organisé et qui travaille très bien dans toutes les matières.
Oui, mais madame, c'est quand même un cas particulier.
Oui.
Si on parle des cas généraux, moi je pense que dans les petites classes, après non, mais dans les petites classes,
je ne pense pas quand
ça
même.
Ça les aide quand même.
Nous avons des enfants, des fois, de professeurs qui ont les parents, vous me direz que là c'est peut-être le contraire, quoi, des enfants dont on s'occupe trop.
Oui, il faut que
nous
pas trop.
Les enfants ne font rien et ne veulent plus rien faire parce qu'ils ont l'habitude d'avoir leurs parents avec eux.
Aussi.
Oui.
Il y a une mauvaise. Ce sont des enfants d'instituteurs qui sont souvent très brillants au départ, pendant un an, deux ans, puis ils baissent.
Qui s'essoufflent, oui.
Parce qu'ils sont trop soutenus.
Oui, on fait regarder la petite.
La petite.
Véronique.
Beaucoup d'enfants ont trompé au départ, alors qu'au contraire, les enfants qui ont fait ont appris le coup.
Qu'est-ce que vous pensez, monsieur?
Je dis qu'il y a un âge pour partir dans la vie. On peut partir à 8 ans, à 9 ans, à 12 ans. Il peut partir beaucoup plus tard. Oui. Il y a qui a quitté l'école avec l'appréciation à l'élève moyen. C'est une preuve.
Oui, c'est certain.
Donc, l'échec scolaire est souvent de pair avec l'échec dans la vie, mais je ne crois pas toujours, en tout cas.
Ah non, absolument pas.
Absolument pas toujours, en tout cas.
Oui.
Si on parle de l'échec scolaire, une des raisons, je pense, ce n'est pas qu'ils ne comprennent pas. Ils comprennent, mais ils oublient très vite. Et je pense que tout le malheur est là. Un élève, même moyen, même en quatrième terminale pratique, puisque je suis là, peut aller assez loin en mathématiques, il vous suivra, il pourrait peut-être aller même, je ne sais pas, jusqu'au dérivé, pourquoi pas, et il abandonnera très vite. Une
question de mais il y a tout de même la contrepartie, il y a quand même un effort qui a été fait, un effort très grand qui a été fait justement pour récupérer, pour sauver les enfants qui ne sont pas doués.
Oui, oui, ça c'est
ça. Et là, je crois que monsieur a une expérience intéressante sur ses classes. La classe de quatrième terminale pratique, qu'il a continué ses classes de transition, qui sont en quelque sorte des classes qui ont été faites pour sauver les enfants, qui n'avaient pas de goût pour l'étude, même quelquefois qui ne semblaient pas avoir d'aptitude dans certaines disciplines, surtout intellectuelles, mais qui sont récupérées par la voix de ces classes qui appartiennent au cycle pratique. Et je vais certainement vous donner beaucoup d'exemples d'enfants de ces classes qui ont réussi dans la vie, en passant par, déjà par cette voie. Donc, c'était en somme. Qui semblaient être des cas un peu désespérés, qui ont été justement sauvés par un enseignement pratique.
De toute façon, ce ne sont pas des cas désespérés. Les cas désespérés, c'est qu'un élève malade ou un élève qui ne pourrait pas travailler du tout. On peut travailler dans un domaine ou dans un autre. Ce n'est pas plus déshonorant, je pense, de conduire un tracteur que de s'occuper d'autre chose.
Non, ces classes ont justement permis de donner aux enfants qui ont des aptitudes manuelles et leur donner leur place dans la. De faire espérer d'avoir une place dans la.
Dans la vie, quoi.
Une place dans la vie est quelquefois une belle place. Alors, je répète encore ce que je disais, monsieur. Et souvent, les élèves, nous avons souvent cette réflexion que les enfants qui l'intéressent, qui s'accrochent à la mécanique, qui sont passionnés de voir de démonter des moteurs au point de venir en cachette. Quand ils avaient été absents, ça s'est passé, enfin, quelquefois, quand vous avez été appelé à faire des stages, les enfants emportaient en cachette un moteur de mobilette pour le démonter, ils étaient passionnés. Alors quand on arrive justement à les passionner comme cela, ces enfants, et certainement que l'avenir, ils trouveront leur place dans le garage, dans l'industrie électrique.
Je m'excuse d'interrompre, mais madame, vous aviez dit que vous deviez partir à 5 heures.
C'est-à-dire que, vous savez, je dois à 5 heures collecter l'argent pour le concert, mais ils doivent m'attendre salle 16.
Oui.
Je m'excuse.
Pas du tout, je m'excuse de vous appeler. Merci beaucoup d'être venue, madame. Vraiment, madame, vous êtes très gentille. Oui, c'est-à-dire si tout le monde dispose d'encore quelques minutes, nous pourrions continuer.
Oui, oui.
Oui, si, oui. Oui. Et si madame voudrait venir prendre la place, parce que j'ai l'impression que... Merci beaucoup, merci. J'ai l'impression qu'on a réussi à enregistrer votre voix très faiblement.
C'est vrai?
Oui, 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 oui. Oui, on enregistre tout, mais puisque les microphones sont assez loin, je suppose que on vous entend de loin. Oui, oui.
Ce que je vous ai donné, c'est le point de vue d'un vieux professeur, en quelque sorte.
Oui.
Mais d'un vieux professeur, justement, qui a pu observer l'évolution des méthodes d'enseignement.
Oui.
Et si vous n'avez pas bien enregistré ce que je disais tout à l'heure, je crois que la modification essentielle, c'est que maintenant, on ne s'attache plus à faire entasser aux enfants des connaissances, mais à les apprendre à travailler et à les apprendre, justement, à leur former l'esprit, je veux dire, afin qu'ils puissent se cultiver. Et après, ils auront des livres pour perfectionner, si vous voulez, pour rechercher leurs connaissances, forment plutôt les esprits, on leur donne des habitudes de travail, plus que des connaissances toutes faites.
Puis-je poser une question assez indiscrète? Est-ce que mai 68 a changé beaucoup de choses? On m'a dit que dans l'enseignement, il y a des choses changées depuis ce temps-là.
Oui, je pense qu'en quatrième terminale pratique, oui. Et par exemple, lorsqu'on engage une discussion avec les élèves sur un domaine, par exemple, comme l'habitation, la voiture, on a des élèves qui prennent la parole et qui n'auraient peut-être pas dit des choses avant, ces choses-là, ils n'auraient sûrement pas dit. Parfois aussi, on s'accroche au point de vue politique. Quand je dis on s'accroche, évidemment, à la discussion, mais enfin, on discute de choses qu'autrefois, on n'aurait pas fait ça.
Vous trouvez que c'est une bonne chose ou...
Je trouve que c'est une bonne chose, malgré tout, puisque dans la vie, il faut bien discuter, surtout aujourd'hui. Et je ne pense pas qu'il faut contrer obligatoirement l'élève à se taire obligatoirement, dans tous les cas. Quoi.
Pour moi, je ne peux pas dire que cela ait beaucoup changé, car j'ai toujours beaucoup parlé avec mes élèves. Indépendamment de l'enseignement, j'essayais toujours d'avoir d'autres contacts avec eux et je leur donnais la parole lorsqu'ils la voulaient. Je ne pense pas qu'ils en aient conscience, qu'ils aient conscience, eux, que ce mois de mai leur ait donné le droit de parler davantage. Je ne pense pas, surtout chez les jeunes. Mais enfin, pour ma part, je n'ai pas vu de différence, puisque d'habitude, lorsqu'ils veulent donner leur avis sur quelque chose, je les laisse s'exprimer. Je les laisse s'exprimer.
Et vous, oui. vous êtes en quelque sorte
la transition, oui, de l'autre côté, oui, si on veut. Enfin, personnellement, moi, vis-à-vis des élèves, par exemple, du secondaire, j'ai l'impression que, enfin, comme chez les étudiants, ça a donné une très grande liberté. Mais alors que des enfants de 11 à 17 ans, c'est peut-être encore un point de vue personnel, mais souvent exploitent assez mal. C'est-à-dire que sur l'idée de liberté qu'ils ont, que ce soit de parler ou d'agir, ou enfin de penser, c'est tout à fait normal qu'ils expriment ce qu'ils pensent, mais c'est greffé un peu une... C'est un peu abusif. C'est-à-dire que c'est une liberté un peu familière, éventuellement. Enfin, je ne sais pas, peut-être que pour eux, ici, j'ai l'air d'une gamine, je suis encore jeune, alors ils ont la difficulté de me considérer comme madame qui est un professeur qu'ils connaissent depuis plusieurs années. Il est certain que madame a le respect que moi, je perçois à peine de leur part. Quand on leur dit justement « vous êtes insolent », c'est une notion qu'ils ont complètement éliminée. L'insolence pour eux, quand on leur dit « vous êtes insolent », c'est « nous sommes injustes », l'insolence n'existe pas. C'est « j'ai le droit de parler », j'ai le droit de demander quelque chose sans dire « s'il vous plaît », j'ai le droit de dire « un » au lieu de dire « comment ». Vous voyez, le langage parlé ressort tout de suite. Et je trouve que je ne dis pas que je suis de la vieille école, si je puis dire, mais personnellement, vis-à-vis de mes professeurs ou vis-à-vis même de mes surveillants, bien que j'ai eu des surveillants très amicaux avec lesquels je pouvais parler, je ne me serais jamais permis à l'époque, vous voyez, pourtant j'ai que quelques années de différence, mais d'être aussi familier. Ça ne m'empêchait pas de m'exprimer, j'avais tout à fait la liberté de parler avec mes professeurs, mais il y avait une notion de respect que je ne perçois plus du tout. Ce serait excessif, mais que je perçois beaucoup moins maintenant. Et je trouve que c'est dommage parce que ça appartient à l'esprit, à la forme d'esprit d'un établissement. Et quand des élèves commencent à transgresser cette notion de respect, je trouve que ça perturbe un peu l'atmosphère, par exemple, d'une classe ou l'esprit général d'un établissement. Mais enfin, je crois qu'il est très vrai que des élèves qui n'osaient pas parler avant, maintenant, osent un peu plus venir discuter, vous poser des problèmes à chaud, comme ça. Et on est content, je crois, d'ailleurs, de pouvoir en discuter, et même si on ne peut pas y répondre. Mais moi, je suis très contente, quelquefois, quand j'ai des enfants qui viennent me poser des questions. C'est très agréable. Enfin, j'aimerais quoi, les voir plus souvent, rester dans les limites. Enfin,
mais voyez-vous, je pense que se laisser aller, oui. Leur parler, ne vient peut-être pas tellement du fait de mai 68,
non.
Ça vient de l'évolution familiale,
oui. l'évolution générale.
Une déformation.
Voilà, et aussi. Il est certain que les enfants n'ont absolument pas d'éducation, dans le sens tel que nous l'entendions. Ils l'ignorent, on ne peut pas dire qu'ils sont mal élevés, ils ignorent les principes élémentaires de la bonne éducation.
Oui, c'est ça.
Alors, lorsque nous leur faisons une remarque, ils sont tout étonnés parce qu'ils n'ont pas conscience d'avoir mal fait. Ils ne savaient même pas comment il fallait s'exprimer pour être correct. Alors, c'est la chose qui est regrettable, mais cela vient de l'époque.
Ah oui, nous souffrons beaucoup de ce fait.
Ce manque d'éducation totale.
Oui.
Enfin, mai 68 a certainement un petit peu aidé parce que il y a eu un certain vent qui a soufflé, pas mal d'exemples, et les enfants se sont crus tout permis d'un seul coup. Alors si en plus se greffait l'absence d'éducation
et de cadre aussi.
D'ailleurs, ces événements sont peut-être le résultat aussi de ce renoncement des parents.
Abdication complète.
Abdication des parents à leur rôle d'éducateur. Il faut croire que les parents souffrent très certainement de la situation économique et sont de plus en plus pris par une vie extrêmement intense, absorbée par des tas de soucis, de préoccupations, la vie quotidienne. On est handicapé par des problèmes de transport, par des problèmes de fatigue, de bruit, de toutes sortes de choses. De plus, les enfants aussi ont à leur disposition énormément d'occasions d'apprendre des choses d'information. Le problème, certainement, que les enfants ont sous les yeux de plus en plus le spectacle de la télévision, le cinéma, qui arrive au moins à les fatiguer, à les perturber, comme les adultes. Et alors les enfants, les parents n'ont plus le temps, peut-être, de...
La cellule familiale n'est plus ce qu'elle était il y a une quinzaine d'années seulement. Même.
C'est l'encadrement qui...
Oui, l'enfant n'est plus cadré, oui. Autrefois, un enfant, tout de même, quel que soit son milieu, je crois qu'on pouvait dire qu'il était dans un certain type de cadre. Maintenant, on a l'impression que ça y est, le cadre n'est plus, donc l'enfant évolue comme il peut, sous les multiples influences du monde extérieur. Parfois, il y a des éléments qui sont bons. Certaines émissions leur apprennent énormément de choses aux enfants, mais parfois, c'est assez néfaste. Et étant donné qu'il n'y a même pas l'influence ou la personnalité d'un père ou d'une mère pour lui dire « Non, ça, tu ne dois pas le voir parce que ce n'est pas bien. » Alors, il voit tout. Et comme un enfant est très influençable et ne sait pas discerner ce qu'il y a de bon ou ce qu'il y a de mauvais pour lui, pour son âge, eh bien, hélas, souvent, c'est le mauvais qui l'emporte sur le bon. Néanmoins, il faut dire... Que parfois même la télévision est extrêmement bonne, il y a de très bonnes émissions, et les enfants arrivent à glaner des connaissances d'une façon certaine, d'une façon solide, beaucoup plus solide qu'ils les auraient glanées pendant un cours classique en classe. Ça, il faut le reconnaître d'une façon évidente.
Mais il faudrait évidemment que ce soit réglementé, que les enfants puissent être...
Mais c'est tellement commode à la maison lorsqu'on est occupé, on ouvre la télévision, tu vas rester là tout l'après-midi. Quelle sécurité, il n'en bougera pas. Et puis au moins, on pourra vaquer à ses occupations. J'avoue que moi-même, j'ai cette faiblesse parfois avec mes filles. Quand un dimanche après-midi, j'ai du travail, j'ouvre la télévision. Et parfois, le soir, je suis un peu horrifiée lorsqu'elles me racontent le film qu'elles ont vu. J'avoue en être horrifiée, me dire, mon Dieu, non, il ne faut pas que je fasse là, il faut qu'au moins je consulte le programme et que je vois si... Alors maintenant, tout de même, je consulte le programme. Mais une ou deux fois, je les avais mis devant la télévision. Et parfois, même une fois, je l'ai beaucoup regretté, car il y avait eu un film de terreur ou quoi. Et je vois monter Sylvie, qui est très émotive, me disant, « Oh maman, j'ai peur, je suis sûre que je vais rêver la nuit. » Elle avait vu un film qui l'avait beaucoup effrayée. Au départ, je ne pensais pas, c'était un film de Laurel et Hardy, mais pareil, c'était un film assez terrifiant. Donc, voyez-vous, l'erreur, moi, parfois, j'en suis consciente, Et j'essaie d'y lutter, mais il y a des parents qui n'y songent absolument pas, j'en suis persuadée. Ils ne sont pas là, ils sont à leur travail. Les enfants rentrent à la maison, on met la télévision.
Mais enfin, et même si les parents ont beaucoup de circonstances atténuantes,
oui.
Je considère que c'est très grave dans la mesure où ça engage leur responsabilité vis-à-vis des enfants et que ça risque, de modifier...
Oui. Par contre, vous avez des parents qui disent non, ils apprennent énormément de choses. Ça, c'est évident qu'il y a d'excellentes émissions. Et lorsqu'un enfant les voit, eh bien, il en retire un bagage que peut-être toute une série de cours ne lui aurait pas donné. Parce que là, ça lui plaisait. Alors ça, c'est tout de même un élément à considérer dans la formation des générations que nous avons entre les mains. Je crois qu'un enfant peut-être qui n'a absolument aucune disposition ni pour le français, ni pour les maths, ni pour les langues vivantes, et qui suit avec passion une émission sur les voitures, parce que ça, il saura vous dire tous les modèles de voitures, les différences mécaniques qu'il y a entre une voiture. C'est un enfant qui a un goût, et donc il faut savoir le discerner et l'orienter vers celle-là. Un autre enfant, ce sera autre chose. Et je crois qu'à ce point de vue-là, c'est excellent, mais pour arriver... à faire le tri entre toutes les possibilités de ces enfants. C'est un travail où nous devrions être aidés par des orienteurs, mais où nous devrions davantage travailler en collaboration plutôt que de travailler chacun dans sa sphère. Ça, on devrait arriver à faire des équipes d'animation pour vraiment nous communiquer les résultats multiples que nous avons chacun obtenus sur cet enfant. Là, peut-être qu'on pourrait faire.
C'est une ébauche.
Oui, là, chacun dans sa sphère, essaie de faire le maximum.
Nous avons essayé tout de même d'avoir une collaboration efficace cette année avec l'équipe des professeurs, l'équipe pédagogique, avec l'assistante sociale et avec l'orientateur professionnel. Ça, nous avons eu quand même une collaboration efficace pour la classe de 6e et puis pour la classe de 3e. Ce qui est regrettable, c'est que le personnel est en nombre insuffisant, surtout pour l'orientation scolaire et professionnelle. Et l'orientateur attaché à l'établissement n'a pu tester que les élèves de 6e et n'a vu que les cas difficiles pour les autres classes. Mais je dois dire tout de même que cette collaboration des services médico-sociaux avec l'équipe pédagogique est extrêmement efficace et a un rôle préventif. Je suis sûr que la discipline de l'établissement s'en est ressentie. Dès que nous avons vu un cas difficile, nous l'avons dirigé, nous avons dirigé l'enfant vers le conseiller qui a essayé de comprendre ce qui perturbait l'enfant. Et on a essayé de pallier, de remédier aux causes. Et je suis sûr qu'il y a eu un effet bénéfique, un effet surtout préventif, n'est-ce pas que on est allé au-devant de cas difficiles. Nous en aurons de plus en plus de cas difficiles, je le redoute, car nous allons recevoir de plus en plus d'enfants qui ne sont pas aptes à suivre l'enseignement général par suite de la suppression des classes de fin d'études. Jusqu'à l'année dernière, beaucoup d'écoles primaires gardaient pendant un an pour leur faire préparer le certificat d'études les enfants qui n'étaient pas très doués. Maintenant, ces classes ont été supprimées. Alors, nous les recevons dans ces classes de transition. Et l'effectif de ces classes, le pourcentage, je veux dire, des classes de transition va aller en augmentant. Et c'est dans ces classes que nous avons énormément de cas difficiles. De cas sociaux, de cas familiaux particuliers et d'enfants qui sont victimes, n'est-ce pas, de cas familiaux, de cas sociaux et qui finalement sont des enfants qui causent beaucoup de problèmes et qui nécessiteraient la présence effective d'un service suffisant de l'orientation professionnelle qui détecte leurs aptitudes et de l'assistante sociale. Ça, il faut une collaboration efficace. Et on va essayer de... Tout cela a été prévu, mais dans un domaine, si vous voulez, purement idéal, pratiquement, on manque de personnel qualifié dans les services d'orientation professionnelle, dans les services sociaux et également aussi, malheureusement, aussi dans l'équipe pédagogique, car nous avons ici un maître qui est très expérimenté, mais il n'y en a pas, ils sont très rares. On met souvent dans ces classes de transition et dans les classes de quatrième pratique des débutants, des maîtres qui n'ont pas d'expérience et ils ont beaucoup de difficultés.
Les mêmes problèmes existaient en classe de fin d'études, mais ils étaient beaucoup moins voyants parce que j'ai l'impression que les élèves étaient beaucoup moins libres. Dans nos classes pratiques et de transition, c'est presque, disons, le début dans la vie et on les laisse beaucoup plus libres de dire ou de faire ce qu'ils veulent faire ou ce qu'ils ont l'intention de faire plus tard. Je pense par exemple des travaux pratiques et autres. Évidemment, ça pose des problèmes plus difficiles à résoudre. Les mêmes problèmes existaient, je pense, en classe de fin d'études. Ce ne sont pas des problèmes nouveaux.
Quelles seraient les matières les plus importantes pour ces classes, selon vous ?
Bien, moi, je crois qu'il n'y a pas de problème, parce que l'élève dans la vie qui ne réussira pas, je ne parle pas de l'élève brillant, disons qu'il réussira toujours, de l'élève moyen qui risquera de réussir, mais disons quand même de plus de 43% de la population scolaire globale qui réussit mal, c'est le chiffre à l'heure actuelle en France, qui n'est pas brillant. Il y a une statistique tout récemment donnée dans les départements du centre où 31% d'une moyenne d'âge scolaire des âges 20-25 ans n'a aucune qualification professionnelle, quelle qu'elle soit, c'est-à-dire ni baccalauréat, ni même brevet, ni aucun CAP. 31%. Alors, quelle discipline maintenant qui risque évidemment le plus d'être absente au bagage pour démarrer dans la vie ? Je pense qu'en aucun doute à l'heure actuelle, c'est les mathématiques. On peut faire des fautes en français, on peut ne pas savoir se servir d'une machine à écrire. Dès qu'on veut faire de la mécanique, dès qu'on veut faire n'importe quoi dans la vie, c'est des mathématiques au démarrage. Et je pense que les mathématiques, il y a évidemment beaucoup de choses à faire, puisqu'aujourd'hui, l'addition, soustraction, multiplication, division est loin d'être suffisante, puisque n'importe quelle machine IBM, on le sait très bien, il faut aller très loin. Et de plus en plus, on va là, les engrenages, les poulies, tout ça. Avant de monter, avant de démonter, il y a le calcul à faire pour savoir ce qu'il faut faire. D'autant plus que ces machines arrivent souvent, je les redis à mes élèves, ce sont des machines américaines, et que souvent c'est écrit soit en anglais, soit en américain. Alors on tombe avec un ouvrier ou un chef d'équipe qui ne comprend ni l'anglais ni l'américain, il doit la mettre quand même en route.
Là, il y a un rôle extrêmement important du maître de quatrième terminale pratique qui a pu arriver à leur faire des mathématiques qui les intéressent à partir, voyez-vous, de quelque chose de concret.
Oui, je vais citer un exemple très précis.
Je serais heureuse que vous le citiez.
Alors, l'exemple précis qu'on peut montrer très souvent, c'est les nombres premiers. Lorsqu'on démonte une boîte de vitesse, de voiture ou de camion ou de n'importe quelle machine, on s'aperçoit que tous les pignons d'engrenage, les dents des pignons, sont en nombre, disons, venant des nombres premiers. Or, l'élève, au bout d'un certain temps, arrive très bien à construire cette liste des nombres premiers. Il faut environ 2 heures pour un élève à peine moyen pour la construire, disons, jusqu'à 500. Alors, les nombres premiers, aussitôt, on peut passer au PPCM, PGCD, et évidemment, on peut aller ensuite assez loin. Et les élèves le comprennent d'une façon parfaite en partant de la mécanique. Alors après, dès qu'on a compris le principe de la boîte de vitesse, on peut aller beaucoup plus loin. On peut aller par exemple sur les histoires d'embrayage, débrayage. On peut aller sur les principes marche avant, marche arrière, multiplication, démultiplication. Et évidemment, l'élève qui a compris ça, si ensuite on lui demande de mettre au point une machine, bien, je pense que l'ayant comprise avant, sa machine, l'ayant presque en tête, avant de la démonter, il pourra dire « voilà, la panne est là ». Je pense que tout le secret est là, il n'y a pas de grosse différence entre le petit mécano et le chef d'équipe mécano, c'est qu'il y en a, tous les deux savent démonter un boulon, mais il y en a un qui sait, avant de démonter, quel boulon est cassé.
Mais là, vous venez de me convaincre donc de l'intérêt des mathématiques modernes et des ensembles.
Oh, mais l'intérêt des mathématiques modernes, c'est parfait, ça.
Oui,
pour ces élèves-là, je pense que ce serait parfait.
Mais même pour les autres.
Et même pour les autres, bien sûr, mais moi je défends que mon...
Oui, d'accord.
Que mes élèves.
Et il y a un enseignement qui est introduit maintenant dans la plupart des établissements aussi, qui va avoir son rôle, et en particulier pour déceler les aptitudes, c'est la technologie, que nous n'avons malheureusement pas pu organiser ici par manque de moyens, et peut-être aussi de maîtres, car il y a très peu de maîtres qui sont formés à cet enseignement. de la technologie, qui est une discipline assez abstraite, qui consiste justement dans une espèce d'étude de, à partir du concret, à partir d'un objet, de reconstituer un plan, mais qui aussi permet, qui doit permettre aux enfants, à partir de plans, de reconstituer un objet, mais aussi d'étudier mécaniquement, mais mathématiquement, je veux dire, des mouvements. Je sais qu'on les fait travailler à partir d'objets familiers, et les filles s'y intéressent aussi, et ça leur permet de comprendre le fonctionnement, mais de le comprendre, je crois, au point de vue mathématique. Je dois mal m'exprimer, mais je sais que...
Mathématique et pratique.
Mathématique et pratique.
Je crois que l'enseignement de la technologie apportera de grands services à l'enseignement pour déceler justement les aptitudes.
Par contre, vous savez ce qu'on m'a dit dans presque tous les lycées où je suis allée, que la matière la plus importante n'est pas les mathématiques, mais le français.
J'ai bien dit, la plus importante pour la vie, par la suite, oui. Pour nos élèves de classe pratique, c'est-à-dire de ce qu'on appelle en France le cycle d'observation. Oui. C'est ce qui leur manquera, ça ne fait aucun doute, le plus. Qu'il soit, disons, patron, qu'il soit ouvrier, qu'il soit chef d'équipe ou qu'il soit simple, je ne sais trop quoi, à chaque fois, ils vont caler sur les mathématiques. Et j'ai d'anciens élèves qui reviennent me voir, même pour un mécanicien aujourd'hui, eh bien, il faut savoir, disons, l'équation du premier degré, l'équation du second degré. Et il est totalement faux, et là je m'y oppose formellement, il est totalement faux de croire qu'un élève moyen, ou tout juste à peine moyen, qui sait tout juste faire une division, ne puisse pas aller très loin en mathématiques. Il y a une dame qui est inspectrice générale en France, mademoiselle, qui un jour soutenait cette thèse, et je pense qu'elle a raison. On peut aller très loin, ce n'est pas parce qu'un élève ne sait pas toujours sa table de multiplication, en admettant que c'est évidemment une limite, qu'il ne peut pas faire, par exemple, une équation et tracer une courbe du second degré. Il peut s'en servir de cette courbe, et il pourra en tirer des conclusions.
Oui, mais comme disait monsieur l'inspecteur primaire, à la commission d'examen d'entrée en sixième, il est néanmoins absolument indispensable que les enfants sachent faire des multiplications et des divisions, car en admettant qu'ils soient capables de faire de la recherche scientifique, il faut qu'ils finissent par faire des calculs, des multiplications, des divisions pour trouver les résultats. Alors s'ils veulent aller au bout de leur recherche scientifique, le calcul, les additions, les multiplications et divisions sont absolument nécessaires, sinon ils ne pourront pas aller au bout de leur démonstration.
Je suis bien d'accord, bien sûr, mais enfin le nombre, disons, d'élèves, même dans nos classes pratiques, qui ne savent pas faire une division correcte, disons une division, une multiplication à trois chiffres, je pense n'est pas supérieur à 20%.
Non, mais en fait,
quand même.
Il faut vous dire que ça, c'était une objection qui le opposait à certaines institutrices qui disaient de certaines élèves, oh, ces élèves ne sont capables que de faire les opérations.
Ce n'est pas vrai.
Alors, mais pour les problèmes, le raisonnement est toujours faux. Alors, il a dit, mais vous savez, mais c'est déjà énorme. Si elles savent déjà toujours bien faire leurs opérations, j'estime que c'est un excellent départ en mathématiques. Et j'avais trouvé que son argument était assez frappant et avait beaucoup de valeur.
Il y a un proverbe allemand qui dit « Ce que Jeannot n'a pas appris, Jean ne le saura jamais ». J'ai l'impression que pour la lecture, l'apprentissage de la lecture, c'est vrai. Et que pour l'apprentissage des mathématiques, c'est encore plus vrai. L'élève qui a, je pense, 7 ans ne sait pas ses tables, après c'est fini, il ne les apprendra plus jamais, même s'il veut les apprendre, et même s'il y met de la bonne volonté. Il sera trop tard.
Mais c'est certain que l'enseignement du français est quand même extrêmement important, et d'une manière générale, l'enseignement de la langue, parce qu'enfin, il faut surtout que les enfants, dans n'importe quel domaine, aussi bien mathématiques, scientifiques, biologiques, sachent s'exprimer. Et je me demande si, je n'y connais pas grand-chose, mais enfin, j'ai l'impression que les mathématiques modernes, justement, c'est un nouveau langage.
C'est une nouvelle terminologie.
Une nouvelle terminologie.
Mais moi, je me rappelle, j'ai toujours cru aussi que le français était à la base de tout, et j'ai jamais été mathématicienne, ou j'ai jamais eu l'esprit d'un mathématicien, et je me suis aperçue à mes dépens qu'en français, j'en avais besoin. Du point de vue esprit, parce que je manquais de rigueur, et il n'y a qu'une matière qui a pu m'enseigner la rigueur, c'était les mathématiques. Lorsque je faisais n'importe quoi, de l'algèbre, de la géométrie ou des simples mathématiques, je partais en grandes phrases littéraires ou autres, et mes professeurs
reprochait toujours ce lyrisme qui n'avait rien à faire dans les mathématiques. Et après, je me suis aperçue qu'au lieu de transporter mon français sur les mathématiques, il fallait que je prenne l'esprit mathématique qui était rigoureux, discipliné, pour faire mes devoirs, mes dissertations. Et sinon, je n'avais aucune rigueur, j'avais beaucoup d'idées, mais sans aucun plan. Et c'est les mathématiques dont j'ai eu besoin pour pallier à ce défaut, parce que sinon, je serais toujours avec plein d'idées.
Il est certain que ce sont deux matières
qui se complètent.
Qui se complètent
et du point de vue esprit et du...
Oui, et qui sont absolument nécessaires pour la formation de l'esprit d'un enfant.
Les deux sont très importants. Je ne peux pas donner la supériorité à l'un sur l'autre, je ne crois pas.
Maintenant, le français, obligatoirement, c'est important, puisque ces enfants doivent s'exprimer. Ils auront, au cours de leur vie, à écrire des lettres. S'ils ne savent pas écrire, dire... Si maintenant, d'un point de vue administratif, nous sommes obligés d'écrire sans arrêt des lettres. Pour un oui ou un non, on est obligé. Ah, vous demandez un renseignement, écrivez-nous une lettre. Et puis, un enfant qui ne sait pas rédiger une lettre correcte, sans faire de phrases, mais correcte et sans faute d'orthographe, c'est un handicap. Un enfant qui fait une demande d'emploi, si sa lettre de demande d'emploi n'est pas correcte, il sera immédiatement écarté.
Voir si elle est bourrée de fautes.
Et si elle est bourrée de fautes.
On a beau dire que l'orthographe, on peut écrire en faisant des fautes, mais malgré tout, quand on reçoit deux lettres, une qui est bourrée de fautes et l'autre qui est quand même correcte, je crois que ça, inconsciemment même, ça agit.
Même ne serait-ce que dans les rapports humains. Dans les rapports humains. On écrit à une relation, on écrit à...
Ça joue énormément.
Il faut demander un service à quelqu'un, il faut que la lettre soit écrite correctement. Alors je crois que tout de même le français et l'orthographe, c'est absolument indispensable pour un enfant qui veut socialement arriver à une situation moyenne.
Est-ce que le latin, pensez-vous, est toujours important?
Moi je crois que c'est important pour certains éléments, seulement.
Vous ne savez pas nécessaire que tous les enfants...
Non, pas que tous les enfants. C'est un surcroît de travail et souvent pour...
C'est déplaisant pour beaucoup.
Moi, je crois que pourtant, le latin, comme les mathématiques, permet aux enfants de se former.
Oui.